Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime, un épisode spécial Saint-Valentin. Il sera tout rose, tout boîte aux magnans. Aujourd'hui, je serai accompagné de Marie. Salut Marie.
Salut Vincent.
Comment ça va bien?
Bah écoute, ça va.
Ça va, ça va.
Tranquillement.
Dans la pluie, dans le mauvais temps.
C'est ça.
Allez, au programme, un petit topo sur la romance au cinéma, mon avis sur Happiness Therapy. Après, interviendra notre chère amie Marie.
Faut bien un avis de fille quand même.
De quoi tu nous parleras un peu?
Du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
J'aime bien ce film. Et l'instant focus où je vous parlerai de Catherine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, musique avec Evanescence et My Immortal. Sortez les cordes, pendez-vous! très très belle chanson, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Après, il faut pas l'écouter lorsque l'on est un petit peu abattu ou quoi que ce soit, parce que bon, assez triste quand même malgré sa beauté, n'est-ce pas?
Tout à fait. J'étais dans mes pensées.
Bon, topo romance. Enfin, si on veut. Hein. Bon, la romance au cinéma. Je m'aventure sur un terrain miné là. Je pense qu'il est assez difficile de déterminer une origine à la romance au cinéma. Dans toute histoire, il y a un moment ou un autre, une histoire amoureuse. Elle peut être légère, tout comme elle peut être lourdingue. Je vais essayer de déterminer les différents types de romances. Pour moi, il y en a quatre. La romance légère, l'exemple de légèreté qui me vient à l'esprit, et la relation entre Riley et Mako dans Pacific Rim. En gros, c'est la relation où il y a un semblant d'attirance entre les deux personnages à l'écran, c'est suggéré, pourtant pas d'embrassade entre les deux, pas de scène supposée de sexe, non, juste de la suggestion, de la légèreté. Le tout ne nuit pas à l'action du film, c'est bien, c'est posé. Voilà, pour moi, la romance légère. Après, il y aurait la romance normale, une comédie romantique à la happiness therapy. La romance passe toute seule, pas grand plus à dire dessus, c'est une romance qui ne tombe pas dans le lourd. Normal, c'est une comédie romantique, me direz-vous. Seulement, ce genre de cas ne doit pas dépasser le stade du film romantique, ce au risque d'alourdir. Après, il y a la romance lourde. Dur de choisir un film pour la présenter, on peut y mettre tous les films dont la romance nuit à l'action. Le film où on se sent presque obligé de mettre une relation d'amour pour le fun fait partie de ce cas-là également. Par exemple, je pense à Resident Evil Extinction. Bon, Resident Evil, c'est pas l'exemple parfait du cinéma, mais celui-là en particulier. Je pense entre autres à la relation, entre guillemets, entre Carlos et Alice. C'est quoi cette amourette à deux balles, oui. C'est vraiment là pour dire, bon, voilà, on met une romance comme ça. Ils diront, oh, c'est bien, il y a une romance. Ouais, mais non, ça apporte rien au film, ça apporte rien à la continuité, c'est nul, ça vaut pas le coup. Après, le quatrième type de romance, pour moi, c'est le Uber lourdingue. Là, c'est l'indigeste comédie à la American Pie spin-off style. Je m'explique. Pas les épisodes canoniques style 1, 2, 3, 4, je pense aux dérivés style Sex Commandement. Sérieux, Sex Commandement, c'est quoi ce titre? Enfin bref, le genre où un gars s'est porté sur la chose bloque sur la moindre paire de seins qui lui passe sous le nez, où il est rejeté de tous pour au final sortir et coucher avec la bombe du lycée. Il y a des exceptions à ce genre de romance à l'écran. Certaines peuvent être sympas, seulement on tombe vite dans le surfait. Voilà pour moi à peu près les 4 types de romances que l'on peut trouver à l'écran. Ça n'engage que moi. Après, si vous n'êtes pas d'accord, je veux bien discuter avec vous. Juste, soyez gentils avec moi, je suis pas méchant, me faites pas de mal si vous n'êtes pas du même avec moi. T'es pas du même avec moi, Marie ?
Tu parles pas trop de romance quand même. Tu parles d'histoires d'amour qui se greffent dans des films,
ouais.
Mais qui sont, voilà, qui sont pas forcément des films... Des films de filles, quoi.
Entre guillemets. Je savais pas trop comment appeler le truc. Mais bon.
Non, mais oui.
Sur ce, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur les romances. Enfin, entre guillemets, hein, parce que moi, j'ai appelé ce truc topo romance. Je savais pas trop de nom. Enfin, bref. Passons à l'avis sur Happiness Therapy. Happiness Therapy de David O'Russell, sorti le 30 janvier 2013 en France et le 4 juin 2013 dans les bacs. Il a mis du temps à sortir en DVD, lui. Au casting, nous trouvons Bradley Cooper pour ses demoiselles, Jennifer Lawrence pour ses messieurs, Robert De Niro, Julia Stiles, entre autres. Pat sort de l'hôpital psychiatrique. Ayant tout perdu, il n'a d'autre choix que de retourner vivre avec ses parents. Un soir, Pat rencontre Tiffany lors d'un dîner chez des amis. Cette rencontre va bousculer son quotidien. En échange d'un service, Tiffany veut bien aider Pat à reconquérir Nikki, sa femme qui l'a trompé et qui l'a conduit à entrer en HP.
Je suis prêt. Pat, vous devez trouver une stratégie.
Je déteste ma maladie et je veux la contrôler.
Quoi ?
Salut.
Mais c'est quoi ça ?
Le juge a dit qu'il était d'accord.
Oui, mais le médecin, qu'est-ce qu'il a dit ?
Je me fous pas tout le temps en colère.
Ça te dérange pas que la sœur de Véronica vienne dîner?
Tiffany et Tommy?
Juste Tiffany.
Pourquoi? Où il est Tommy?
Il est mort.
Qu'est-ce qu'il y a eu?
S'il te plaît, évite d'en parler.
Salut Tiffany, c'est Pat.
T'es jolie?
Merci.
Comment Tommy est mort? Tu prends quoi comme médoc?
Je prenais du lithium et du séroquel.
Et moi du Xanax.
T'as déjà pris du clonopine?
Du clonopine, ouais.
Je défonce.
Je m'en vais, je suis claqué. Tu me raccompagnes ou quoi?
Docteur, elle est dingue.
Qu'est-ce que tu fous là?
Elle savait où j'étais, elle m'a suivi.
Pourquoi tu vas pas courir ailleurs?
Ça va, du calme le taré.
Elle a peut-être tout simplement besoin d'un ami.
Bon, tu veux qu'on aille dîner là?
Passe me prendre à 7h30.
Ça va ton boulot?
Je viens de me faire virer.
Ah bon? Pourquoi?
En fait, j'ai couché avec tout le monde au travail.
Avec tout le monde?
J'étais grave déprimée quand Tommy est mort.
On n'est pas obligé d'en parler.
Merci.
Vraiment tout le monde?
Oh, c'est une paumée, fais gaffe. Elle est tout le temps fourrée chez son psy.
Moi aussi, je vois souvent mon psy. Ça fait de moi un paumé. Il faut que je trouve une stratégie.
Moi aussi. C'est un truc de danse. Et je peux le faire que si j'ai un partenaire.
Non, je vais pas danser avec toi.
C'est elle, la fille dont tu m'as parlé dans ta lettre?
T'as parlé de moi?
Elle assure.
C'est mon amie, avec un A, tu vois.
Un A majuscule, alors? Pourquoi t'es tout excité comme ça?
Parce que je suis heureux. Je suis au top, maintenant. Et je crois qu'elle aussi, elle est au top. Et c'est une bonne chose.
Je sais que tu veux pas écouter ton père, mais quand la vie t'offre une chance à un moment pareil, c'est un péché de ne pas la saisir.
Je vais vous dire, moi, ce que je crois. Il faut s'accrocher, et si on reste positif, on a droit à un rayon de soleil.
J'adore cette bande-annonce. Pour moi, elle résume parfaitement ce que je pense du film, c'est-à-dire que de bonnes choses. Le début du film est assez gris, dans son ton et dans son atmosphère. Pat sort tout juste de l'hôpital psychiatrique. HP, c'est ça, hôpital psychiatrique, au cas où si vous ne l'avez pas compris tout à l'heure. Les parents de Pat sont présents, s'inquiètent pour lui. Il ne doit pas trop s'éloigner, doit obligatoirement rencontrer un psy, crise de colère sur certains points, comportement assez particulier. Oui, le début est quelque peu pesant. Un semblant de couleur arrive lorsque Pat rencontre Tiffany. À partir de cet instant, le gris laisse place à la couleur. Le film devient un peu plus léger et ça va crescendo. Le sujet de la dépression est bien traité sans aller trop loin dans le lourd. C'est léger, ça passe seul et on vient à s'identifier aux personnages. Les personnages! Dire qu'au début Pat dit ne pas aimer la danse, s'il savait ce que l'avenir lui réserve, je vais être franc, ils sont tous excellents. Les acteurs habitent leurs personnages et il y en a pas un pour se démarquer de l'autre. Les deux personnages principaux sont excellents. Bradley Cooper et Jennifer Lawrence se sont surpassés. L'actrice a bien mérité son Oscar pour son rôle dans le film. Remarquable. Une chose que j'ai bien aimée dans ce film, c'est les dialogues. Ils sont excellents dans leur écriture et dans leur interprétation. Ils parlent d'un truc sérieux et d'un coup, ça part à côté. Ils parlent de toute autre chose. Puis ils reviennent sur ce qu'ils disaient il y a 5 minutes. C'est juste magique. Allez, c'est parti pour l'instant 4 consciences, car même si les points positifs peuvent être nombreux, il n'est pas impossible que je descende le film. En plus, le cheminement du film, un début assez gris qui laisse peu à peu place à des couleurs, à une certaine légèreté qui fait sourire. Les acteurs, bravo à tous! Jennifer Lawrence est sexy en diable dans ce film. Et la BO du film est superbement choisie. Danny Elfman, hein, vous me direz, hein. Le maître presque. Les dialogues du film, remarquable, et la dynamique de la danse finale superbement bien mise en scène. Et en négatif, passons à la conclusion. Happiness Therapy, la thérapie du bonheur traduit littéralement. Je ne sais pas que trop en dire de plus. Ce film est tout simplement un de mes coups de cœur de l'année 2013. S'il y a bien une comédie dramatique, romantique, que vous devez voir pour la Saint-Valentin, c'est bien celle-ci. Dans un sens, Happiness Therapy change des films romantiques traditionnels. Il faut dire que sa force vient aussi de la gravité du sujet de base, la dépression. Une comédie dramatique, romantique, qui montre que l'on peut toujours s'en sortir en croyant au bonheur et à sa bonne étoile. Si vous en avez l'occasion, regardez-le! Vous manqueriez vraiment quelque chose à ne pas le voir. Bon, moi ça me donne envie d'aller voir American Bluff du même réalisateur, tout ça.
Ça a l'air sympa en effet, Happiness Therapy. Je vais le mettre sur ma liste.
Il faut.
À regarder.
C'est le but, c'est bien. J'ai converti déjà quelqu'un. Ouais. Allez, c'est parti pour ton instant à toi.
À Alors bon, on parle des films de filles, des films romantiques, etc. Il y a différents types, comme tu disais. Pour moi, il y a les films à regarder sous la couette quand il pleut. C'est le film, tu sais que tu le mets, tu vas t'endormir, mais au moins, ça te fait un fond un peu doux. On n'y croit pas du tout. Quand on choisit de les regarder, normalement, c'est en connaissance de cause. On sait qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, que c'est super cucu. Mais des fois, un peu de niaiserie, ça fait du bien. Voilà. Ensuite, il y a les films de filles, c'est un petit peu mieux, genre Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, PS I Love You, bon, dès qu'il y a Hugh Grant, Julia Roberts, ça faut regarder. Alors c'est des trucs qui font passer le temps, une bonne vieille comédie romantique qui nous sort un peu du quotidien, mais c'est quand même à regarder au second degré, hein. Sinon c'est qu'on a un souci, ça devient dangereux. Et après, parfois, il y a des vraies bonnes histoires d'amour rendues avec sincérité à l'écran. Alors du coup, là, on a écouté en petite intro un extrait de la bande originale du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc l'amour, là, c'est vraiment le fil conducteur de ce film. Comment aimer sans souffrir? C'est la grande question que tout le monde se pose. C'est pas possible, mais dans ce film, ça nous apporte une réponse à cette question. Donc l'histoire se passe de nos jours, mais pourtant une technologie révolutionnaire existe. Il est désormais possible d'effacer de notre mémoire tout souvenir concernant une personne précise. Donc les chagrins d'amour peuvent être effacés. On efface de sa mémoire le souvenir de la personne qu'on a aimée et on ne s'en souvient plus du tout, c'est comme si on l'avait jamais rencontré. Donc Joël et Clémentine, c'est les héros de ce film. Ils sont interprétés magistralement par Kate Winslet et Jim Carrey. Je ne vais pas vous dévoiler le film, mais il est vraiment superbe. L'histoire, elle est complètement crédible, même s'il y a un petit côté un peu science-fiction du fait qu'on peut effacer notre mémoire. C'est pas possible, mais là, on y croit vraiment. C'est très bien tourné. Les personnages, ils sont vraiment très, très bien faits. Ils n'ont rien en commun, mais ils s'aiment vraiment. Et c'est pareil, crédible, c'est sincère. Le réalisateur a vraiment un talent fou. Les plans, ils sont superbes, il y a certaines scènes qui sont vraiment dignes d'une photo d'art quand on met sur pause, c'est magnifique. Et en plus, je ne connais pas le terme précis, Vincent, toi qui es très cinéphile peut-être, tu peux m'aider techniquement, mais c'est un film vraiment bluffant parce qu'il est conçu d'une manière très précise. En fait, le début pour le spectateur, c'est en fait la fin du point de vue temporel des personnages. C'est-à-dire que voilà, ce que voit le spectateur au début, en fait, c'est la fin de l'histoire. Et on remonte comme ça, petit à petit, il y a plein de flashbacks, tout ça. Enfin, voilà. Bon, je ne vais pas trop vous embrouiller, je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment un film à voir et à écouter, car la bande-son est géniale. Voilà. Et la morale du film, rien ne sert d'essayer d'oublier son amour. Il reviendra toujours.
Un flash forward sur le début. C'est ça, c'est un coup en avant en fait, un flash D'accord. Forward. On te propulse en avant et après on te remet en arrière avec des flashbacks. Super. Après il doit y avoir d'autres termes sûrement, mais bon.
Ok, et merci.
J'approuve vraiment cet avis parce que ce film il est vraiment superbe, je l'ai ouais. Vu mais il est vraiment bluffant. Et même les personnages secondaires sont très bien incarnés, il y a Mark Ruffalo et Kirsten Dunst voilà. Dedans. Et ils ne sont pas mis au second plan, enfin,
non,
ils ont quand même une importance quand même, c'est vraiment super comme film. Vraiment, si vous avez l'occasion, ben, regardez ce week-end Happiness Therapy et Eternal voilà. Sunshine of the Spotless Mind. Voilà. Allez, focus sur Catherine. Yeah. Allez, pour le focus de cette spéciale Saint-Valentin, je tenais à vous parler d'un jeu vidéo. De là, j'entends déjà les voix se lever. Un jeu, c'est quoi le rapport? Il va nous parler d'un jeu fille ou je ne sais quelle autre réplique du genre. Et pourtant si, jeu intéressant en rapport avec les relations amoureuses, il y a. L'amour se trouve souvent au centre de certains jeux. Parfois, c'est juste un élément propre à l'histoire Love Interest. En gros, le principe de l'amour du héros. Chose dans le genre. Des fois, l'histoire peut venir à tourner autour d'une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'on s'écarte du côté banal du Love Interest. Et Silent Hill 2 en fait partie. Je vous situe l'histoire. James a reçu une lettre de sa défunte femme. Dans celle-ci, Marie lui demande de se rendre à Silent Hill pour qu'ils puissent se revoir. Une aventure horrifique, mais aussi anime macabre à l'amour. Mais je ne vais pas vous parler de Silent Hill aujourd'hui. Je vais vous parler de Catherine. Catherine, jeu sorti le 9 février 2012 en France. Avant d'entrer dans le synopsis, vif du sujet, sachez ceci. Ce jeu est un jeu pour adultes. Enfin, je me comprends quand je dis adultes. Hein. Certes, ça sonne peut-être faux pour vous, mais la PEGI, ça n'existe pas pour rien. La PEGI, c'est la classification pour les jeux vidéo. Et lui, il est déconseillé au moins de 18 ou 16 ans, je sais plus, mais un des deux. Enfin bref, Catherine, c'est juste un jeu bizarre, dur d'y associer un genre. Il tient plus de l'hybride qu'autre chose. En voici le speech. Vincent sort avec une charmante demoiselle du nom de Catherine avec un K. Un soir, après une soirée bien arrosée avec ses amis, il se réveille aux côtés d'une superbe blonde. Cette femme se prénomme Catherine avec un C. Les choses se compliquent alors pour Vincent. À vous de choisir, votre cœur balancera plus vers Catherine avec un K ou Catherine avec un C. Cependant, d'étranges décès se produisent dans le quartier où vit Vincent. Les gens meurent dans leur sommeil avec une expression d'angoisse sur leur visage. Ah ah, que de mystère ! Le jeu se divise en deux phases. Celle dans notre monde, elle a pour principal lieu d'action un bar. L'objectif, discuter avec les gens. Waouh, super le jeu, me direz-vous. Sauf qu'à l'instar d'un Mass Effect, les discussions sont importantes. Les actions du joueur impactent directement le jeu. Les discussions vous font nouer des liens, peuvent influencer qui va mourir ou non dans votre entourage. Elles peuvent aider à glaner des informations concernant les mystérieuses morts qui se produisent. De même, ces phases dans notre monde permettent d'interagir via le téléphone portable du héros. On y reçoit principalement des messages de Catherine et Catherine. Selon nos réponses, une jauge apparaîtra. Si vous choisissez des réponses qui peuvent laisser à penser que vous tromperez Catherine avec un K, la jauge basculera petit à petit dans le rouge. Si vous êtes fidèle envers votre aimé, elle tendra vers le bleu. Par exemple, si Catherine avec un C vous envoie un message à sous-entendu et que vous y répondez, la jauge basculera dans le rouge. Après vient la phase des cauchemars. Ces phases prennent place dans la psyché de Vincent lorsqu'il dort. Vous devrez résoudre une sorte de puzzle. En gros, il faudra déplacer des cubes selon un certain schéma. Ainsi, vous pourrez vous sortir de ces cauchemars. Parfois, il peut venir qu'un boss, une créature difforme issue des peurs les plus enfouies de Vincent, vienne à vous poursuivre pendant ces phases. Il faudra donc faire vite. À l'issue, quand vous atteignez la sortie, vous vous retrouvez dans un confessionnal. Là, une voix vous posera une question sur votre opinion de la vie amoureuse. À vous de choisir entre deux réponses. Selon votre réponse, cela influencera la jauge dont je vous parlais. Un vrai jeu qui se base sur l'amour, les relations amoureuses. Selon vos choix, vous aurez droit à une fin ou à une autre. Sachez qu'il y a 8 fins différentes. Il y a de quoi faire. La force de ce jeu est vraiment son histoire. Le but est vraiment d'y répondre le plus sincèrement possible. Ça permet d'avoir un regard sur notre vision de la vie amoureuse. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à y jouer. Vraiment. Il vise autant ces messieurs que ces demoiselles. Si vous êtes en couple, jouez-y ensemble avec copains, copines. J'espère que vous vous laisserez tenter par Catherine et que vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse avec une petite musique que je choisis. C'est pas de la bande originale de Catherine, mais c'est du Skylet. Encore du Skylet. Anyway, du Skylet. Yours to Hold. Ils font pas que de la musique un peu bourrin. I see you standing here, but you're so far away, starving for your attention. You don't even know my name. You're going through so much, but I know that I could be the one to hold you every single day. I find it hard to say I could be yours alone, and you on the drums.
but you're just out of reach. I'm ready when you're ready for me.
Moi j'aime bien cette musique. Bon, Skyhead c'est pas le plus bourrin que je puisse mettre ou que j'ai pu mettre, mais bon, j'avoue que si on n'aime pas trop le rock, ça peut perturber un petit peu. Mais cette chanson change un petit peu. Enfin, je la trouve vraiment belle, surtout la voix de Jen Nedger, la chanteuse féminine, la première voix féminine que l'on entend. Je la trouve vraiment superbe, remarquable. Ouais, il y a pas d'autre mot. Elle est vraiment belle. Enfin voilà. Bon, ben cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions et de vos avis pour la suite. En vous remerciant pour m'avoir écouté, et aussi un grand merci à Radio Larzac pour l'enregistrement, et à Marie, à la technique, et aussi pour m'avoir accompagné tout du long de cette émission. Merci
ouais,
beaucoup.
C'était sympa.
Faudra s'en refaire une, un truc un peu plus...
Ouais, avec plaisir.
On se refera ça. Allez, à la prochaine.